Amen. Amen. Ah, je suis vraiment bien touché par ce cantique. Louez le Seigneur. Amen. Ça doit être ça, notre premier plaisir, de louer l'Éternel. Alléluia. C'est plus que les milliards de dollars. C'est plus que les poulets. C'est plus que les foufous. Dieu soit loué. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons aujourd'hui lire dans Marc 6, 34. Marc 6, 34. Je suis dans les louer toujours. C'était tellement bien que ça m'a beaucoup influencé. Donc nous allons lire dans Marc 6, au verset 34. Alors je lis. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de ses paroles. Nous allons prier. Dieu, notre Père, combien ça fait de la joie de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur, je comprends tout simplement que la principale raison pour laquelle tu nous as placés dans ce monde, c'est pour que nous puissions louer l'Éternel, pour que nous puissions te bénir. C'est pour que nous puissions t'adorer, Seigneur. Aide-nous afin que ça puisse être ainsi et que tout le temps notre cœur puisse vibrer autour de la parole de Dieu, comme le cœur de David, ton serviteur, qui pouvait dire « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Qui pouvait dire qu'un jour, dans tes parvis, vaut plus que 1000 jours passés ailleurs. Ô éternel Dieu de mon salut, permets que cette joie qui était tout le temps dans le cœur de David puisse encore être dans notre cœur. Ce quelque temps que nous allons passer ici, Seigneur, cela n'est possible que si toi, tu viennes au milieu de nous, Seigneur. Il n'y a pas un autre qui puisse nous donner cette joie que le monde ne peut jamais nous donner. Il n'y a que toi qui peux nous la donner, Seigneur. Et si nous t'implorons, ô bien-aimé Père Céleste, de venir au milieu de nous. Nous savons que nous ne sommes même pas dignes de te recevoir, mais Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Que toi-même tu puisses pardonner nos péchés, nous débarrasser de toutes ces choses qui peuvent être des obstacles pour que toi tu ne viennes pas. Seigneur, nous sommes à toi. Et sans toi, nous ne pouvons rien du tout. Conduis maintenant toutes tes choses, ô Dieu, puisque quand toi tu parles, quand tu parlais, dans les temps, les gens pouvaient dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous-mêmes quand il nous parlait. Permets que ça puisse encore être ici, Seigneur, afin que nos cœurs puissent brûler et que, ô Dieu, ta parole puisse brûler tout. Ce qui traîne dans nos cœurs et qui n'est pas en compatibilité avec ta parole, Seigneur, accorde-nous cela. Ô Seigneur, afin qu'après, que tes fils et tes filles que nous sommes, nous puissions nous souvenir de ce moment béni, en disant, notre Seigneur nous a visités et nous avons été bénis. Et Seigneur, ô Dieu, toi qui as un amour correctif, corrige-nous quand il le faudra, Seigneur. Et bénis tes enfants quand il le faudra toujours. Merci de nous l'accorder. Alors que, Père, je te le demande ici au nom de Jésus, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Voilà. Donc, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie qu'il puisse nous accorder un tel moment de pouvoir communier autour de sa parole. Alléluia. Peut-être un petit rappel On ne peut pas tout rappeler. On n'a pas beaucoup de temps. Et le mardi donc, nous avons parlé du fait que Jésus avait vraiment du zèle pour les affaires de son Père, de telle manière qu'il pouvait dire, les ailes de ta maison me dévorent. Qu'est-ce que ça signifie le verbe dévorer? Nous savons ce que ça signifie. Dévorer, c'est manger entièrement, sans rien laisser. Donc, c'est pour dire que notre Seigneur était entièrement absorbé par les affaires de son Père. Entièrement absorbé par les services divins. J'aimerais vraiment que je puisse moi aussi, ô Dieu, être entièrement absorbé. Que toi aussi tu puisses l'être. Que mon frère puisse l'être. Que ma soeur puisse l'être. Donc, il avait un zèle véritable. Ça veut dire que Jésus était vraiment entièrement dans le zèle pour le service de son Père. Ce n'était pas comme l'Odyssée. L'Odyssée qui n'est ni froid ni bouillant. Donc, si on pouvait observer ceux-là qui venaient dans l'église de l'Odyssée, il y avait peut-être un groupe qui était zélé à 0%. Il y avait peut-être un groupe qui était zélé à 20%. Il y en avait peut-être à 50%. Peut-être à 99%. Mais ces cotes-là, les pourcentages, 20%, 50%, 99%, ça, ce sont les professeurs de ce monde qui donnent de telles cotes. Mais quand nous lisons le livre d'Apocalypse, là où il est question des ailes, nous savons la cote que Dieu a donnée à l'église de l'Odyssée. Dieu a dit « aie donc du zèle ». Donc, Dieu ne leur a même pas donné de 20% là-bas, de 50%, de 99%. Dieu leur a donné 0%. Parce que pour Dieu, il y a ceci que nous ne devons pas oublier. Il n'y a pas de demi-chrétien. Il n'y a pas de demi-service. Ou bien on a fait un service pour Dieu, ou bien on n'a pas fait de service. C'est ça qui est tout particulier pour notre Seigneur. Alléluia. Vous voyez, nous pouvons nous souvenir, par exemple, de Marie de Magdala. Voyez les services qu'elle a rendus à notre Seigneur. Elle a déversé des larmes sur les pieds du Seigneur. C'est déjà un service. Et là, par après, s'est mis à laver les pieds du Seigneur. Voilà, une autre étape du service. Elle s'est mise à essuyer les pieds du Seigneur avec ses propres cheveux. Tout ça sont des étapes. Mais si Marie de Magdala pouvait tout simplement s'arrêter, bon, il déverse les larmes, après il laisse comme ça, le Seigneur n'allait pas être content. Il allait dire, mais Marie, tu n'as rien fait. Marie, tu as zéro. Le Seigneur a attendu jusqu'à ce que Marie termine le service. Et alors, c'était ça la bénédiction. Sinon, elle allait recevoir les reproches et les réprimandes que Simon, le pharisien, avait reçus. Puisqu'en fait, Simon est de cette école-là où on fait des choses à moitié pour Dieu. Il avait fait une bonne chose, d'éviter Jésus-Christ. L'invitation, puisque beaucoup ne l'invitent même pas. Mais malheureusement, il n'a pas continué, il ne fallait pas s'arrêter là. Il fallait aussi, justement, laver les pieds de Jésus. Voilà. C'est juste pour nous dire que vraiment, quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, ça doit vraiment être de tout cœur et entier. C'est ça, c'est que le Seigneur attend de nous. Le zèle pour Dieu, donc, ça ne doit pas être... Le service pour Dieu, je veux dire, ça ne doit pas être quelque chose de secondaire. Ah, voilà, peut-être je suis prof à l'école secondaire, mais bon, dans les noirs, je fais encore ceci. Non, pour Dieu, ce n'est pas ça. Pour Dieu, il n'y a pas de service secondaire. Ça doit être la priorité dans notre vie. Et quand il voit ça, il bénit. Quand il voit ça, nos prières sont exaucées. Alléluia. Amen, amen. Alors là, c'est un petit rappel que je viens de faire. Et alors, nous allons revenir à ce que nous venons de lire. Et le Seigneur, il sortit de la barque. Alors, il vit une foule grande, une grande foule. Et là, la Bible dit qu'il a été ému de compassion. Voilà, ému de compassion. C'est ça, un des secrets du Seigneur. C'était un homme de compassion. Et c'est ça, un des secrets aussi, des affaires de Dieu. Un vrai affaire de Dieu est compatissant vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa sœur. C'est ça que nous allons donc essayer d'étudier aujourd'hui. Donc ce n'est plus le zèle pour le Seigneur, mais la compassion. Compassion les uns vis-à-vis des autres. Voilà. Et c'est quoi maintenant la compassion? La compassion, c'est justement un sentiment qui nous vient et qui nous fait partager la souffrance de quelqu'un d'autre. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'enseigner. C'est quelque chose que tu expérimentes toi-même. Voilà. Donc, c'est pour justement que nous puissions partager la souffrance. Puisqu'il y a un certain nombre de choses qui nous font souffrir dans ce monde. Nous les connaissons. Il y a beaucoup de choses qui nous font souffrir. On va, par exemple, les cibler dans la Bible. À Matthieu 14, 14. Matthieu 14, 14. Petit Matthieu. Matthieu 14, 14. Et il est dit, « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » Donc, Jésus a vu qu'il y avait des malades. Une des choses qui nous fait souffrir, ce sont les maladies. Et sachez une chose, quand tu es malade, quand je suis malade, la personne qui combattu le plus avec toi à ce moment-là, plus que tes amis, tes frères, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ressent cette souffrance plus que tous les autres. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous fait encore souffrir? On va chercher des choses qui nous font souffrir. Qu'est-ce qui nous fait encore souffrir? On va voir dans Marc 6. Marc 6, verset 34. On va aller vite, vite. Souvent, on n'a pas beaucoup de temps. Marc 6, 34. 6, 34. Quand il sortit, encore, c'est toujours la même histoire un peu, mais quand il sortit de la barque, c'est ce que nous avons lui a fait au début. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses pour Jésus. Car il voit qu'un peuple manque d'enseignement, de paroles. Ça le fait souffrir. Oui, puisque c'est ça qui est à la base des péchés. Oui, ce qui fait souffrir Dieu, ce n'est pas seulement ce qui nous fait souffrir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas seulement les maladies. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, le péché doit vous faire souffrir. Vous ne serez jamais content quand le péché est à vous. Vous ferez tout pour vous repentir, pour confesser ce péché. Et quand vous allez sentir que le Seigneur vous a exaucé, c'est à ce moment qu'il y aura un ouf. Mais si vraiment vous avez péché, vous vous réjouissez, ah, on peut se poser la question. Là, vous n'avez pas l'esprit comme celui qui était dans le fils d'Israël. Vous savez, on n'a pas tout le temps de lire. Israël s'est retrouvé une fois à Babylone à cause du péché. Et là, qu'est-ce qu'Israël a fait? Israël, oh, il s'est mis assis. Il a trouvé qu'il n'était même plus digne de se mettre debout, peut-être du haut de la chair pour prêcher. Quand on a le péché, on n'a pas le courage de venir parler aux autres, alors que tu as la chose à toi-même. Il faut d'abord aller auprès de Dieu, Seigneur, pardonne-moi ça. Sinon, tu ne sauras pas. Ça sera très difficile. C'est ça un grand problème. Puisqu'avant qu'on vienne ici, on reçoit des réprimandes terribles. Dis, mais toi, tu vas dire ça. Mais toi, tu es encore dans la chose. Mais c'est vraiment pas facile d'être prédicateur. Oh, que Dieu nous assiste. Israël s'est mis assis, il a dit non, je ne suis même pas digne d'être debout. Israël a déposé tous ses instruments de musique. Il a trouvé qu'il n'était même pas digne de chanter à ce moment-là. Tout ce qu'il fallait, c'est pleurer. Il a pleuré quand il se souvenait de Jérusalem, quand il se souvenait des bénédictions qu'il recevait auprès de son Dieu. Un enfant de Dieu, c'est comme ça. Nous nous souvenons de ce qui était arrivé à David quand il venait de tomber dans un péché. Oh, il a écrit toutes les psaumes. Il pouvait pleurer en disant, « Seigneur, remets-moi la joie de mon salut. » Il n'avait plus cette joie. Et quand on a le péché, justement, cette joie de salut s'évapore quelque part. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être content du péché. Un vrai enfant de Dieu, et c'est ce qui fait qu'il est la haine du péché. Que Dieu nous assiste afin que nous ayons toujours ça, la haine du péché. Nous retrouvons là-dedans seulement à cause de ça, à cause de notre chair. Mais c'est vraiment un élément étranger que nous n'aimons pas. Et tout enfant de Dieu, c'est la même chose. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui nous fait encore souffrir? On va chercher, vite, vite. On va chercher ça. On va essayer de chercher dans Luc 7. On va y aller. Luc 7 au verset 13. Le Seigneur l'ayant vu, fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Il est mort assassi. Il s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère, l'homme de compassion. Ce qui nous fait souffrir aussi, c'est quand nous perdons des êtres chers. Oh, nous pleurons. Qui peut nous consoler à de pareilles circonstances où il y a des amis, des frères qui viennent? Comme c'était dans la maison de Lazare là-bas, des sœurs, des frères étaient là. Mais il n'y a personne qui peut vous, qui ressent votre douleur comme Jésus-Christ à ce moment-là. Nous nous souvenons de l'histoire de Marie et Marthe. C'était des frères et les sœurs de Lazare. Mais quand Lazare venait commencer à pourrir, ah, ça c'est la limite. Hein? Nous tous dans les deuils, c'est comme ça. Si on vous dit, mais maintenant approchez-vous de la personne qui est en train de pourrir là-bas, tout le monde commence à fuir. Sauf Jésus-Christ. Jésus-Christ est resté là. Il a ouvert la bouche, il a prié. Tandis que Marie-Marthe disait, non, mais ils sont mauvais. Mais c'est votre frère. Même à cet état-là. Et donc Jésus, c'est la seule personne qui ne vous abandonne pas même dans de telles circonstances. C'est l'homme de compassion. Alléluia. Ça, il n'y a pas un autre qui soit aussi compatissant comme lui. Alors, qu'est-ce qui nous fait encore pleurer, nous fait souffrir? Nous allons chercher ça dans Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15, au verset 32. Jésus ayant appelé ses disciples dit, « Je suis ému de compassion. » Vous voyez toujours le terme « compassion ». C'était ça, une des clés de la réussite de Jésus-Christ. « Ému de compassion pour cette foule, car voici trois jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. » On peut même s'arrêter là. Voilà, même les problèmes socio-économiques, ah, j'ai faim, je n'ai rien à manger, des problèmes, des factures impayées. Jésus, il a souffert aussi comme toi. Il a souffert comme moi. C'est l'homme de compassion. Donc tous ces problèmes-là les tiennent à cœur. Donc nous pouvons les présenter à Jésus-Christ et il peut les résoudre si nous venons de tout notre cœur auprès de lui. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça, bien sûr. C'est cet esprit de compassion qu'il a amené sur le calvaire, nous le savons. Sur le calvaire, nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire, mais nous connaissons bien le verset, Esaïe 53, et qui nous dit qu'il a porté nos souffrances, qui nous dit qu'il a été blessé à cause de nos péchés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Hein? Donc, c'est grâce à ça qu'il est venu. Il est venu et sous forme de fils de Dieu. Les gens, c'est parce qu'ils ne savent pas qui est le fils de Dieu qu'ils jouent encore avec cette œuvre de calvaire. Mais ce fils de Dieu, c'est l'Éternel lui-même qui était venu dans une chair comme la mienne, comme la tienne. C'est ça le grand mystère. Il a accepté toute cette ignominie pour toi et pour moi. Ému de compassion. Et c'est grâce à ça qu'il y a vraiment l'œuvre de calvaire, que nous sommes passés de la mort à la vie. Voilà, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toute affaire de Dieu qui a le Saint-Esprit, il a ce même esprit. Il doit l'avoir, le même esprit. Qu'est-ce que ça signifie avoir le Saint-Esprit, baptiser le Saint-Esprit? On entre dans un corps qu'on appelle le corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous sommes là ici, c'est une assemblée où il y a tout un mélange. Mais parmi nous, il y a ceux qui sont dans le corps mystique de Jésus-Christ. Et cela, justement, c'est une assemblée mondiale. Vous communiez avec vos frères qui sont en Amérique, et ainsi de suite, tout en état ici, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes dans le corps mystique de Jésus-Christ. Donc, c'est un corps dans lequel corps les membres sont des frères et des sœurs. Donc, il y a peut-être dans ce corps-là le frère le pied qui est là, qui connaît bien son rôle. Et frère, l'œil, c'est tout un frère. Il y a la sœur paupière, parce qu'on dit une paupière, c'est toute une sœur qui est là, dans le corps de Jésus-Christ. Il y a peut-être la sœur la langue, c'est toute une sœur qui est là. Donc, juste pour vous dire que... c'est un corps mystique, invisible, mais c'est un corps. Cela veut dire que notre propre corps peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Notre corps est tout un miracle. Je pense que je l'ai toujours dit comme ça. S'il y a par exemple un grain de poussière qui entre dans le corps, dans l'œil, vous verrez maintenant directement les frères le cerveau qui ordonne à la sœur paupière de bouger un peu. Parce que oui, il faut essayer de bouger un peu les paupières pour que le frère ne souffre pas beaucoup. Voilà. Alors les paupières commencent à bouger. Il y a sœur glande lacrymale qui a de l'eau spéciale, les larmes, il va les envoyer pour laver les globes oculaires. Il y a tout ça, c'est parce que c'est pourquoi, parce que enfin, il faut les lire dans la Bible. Hein. Tout ça, c'est parce que justement, dans la Bible, il y a 1 Corinthiens 12 qui dit ceci. Hein. Faut toujours ramener tout ça à la Bible. Donc, 1 Corinthiens 12, au verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est automatique dans le corps. Ça doit être, c'est donc automatique dans le corps de Christ. Si vraiment la souffrance de mon frère, la joie de mon frère, ce n'est pas ma joie, ce n'est pas ma souffrance, une question que je peux me poser. Est-ce que je suis dans ce corps? Est-ce que je suis dans le corps mystique de Jésus-Christ? Donc, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, il a la joie, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà, c'est ici que je suis en train de parler de ce corps-là. Donc, il y a maintenant... Et la sœur glande lacrymale qui envoie de l'eau spéciale, les larmes, pour laver les globes oculaires, afin de les débarrasser de ces grains de poussière. Il y a encore qui? Peut-être le frère le pied, qui dit non, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter, il ne faut pas marcher maintenant, parce que si on marche, on va déranger le travail qui est en train de se faire. Il y a le frère, ça c'est une sœur, la main, qui vient, commence à frotter. Vous voyez, tout ça, c'est comme du théâtre, mais c'est des choses très, très profondes qui se passent dans les corps mystiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vraiment, on peut applaudir un peu pour le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de compassion. Il n'y a pas un autre qui nous a aimés comme lui. Amen, 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 amen. Alors, maintenant, et nous allons voir un peu ceux-là qui ont l'esprit de Jésus-Christ. Quelques exemples, comme Paul. Eh bien, nous allons montrer vraiment qu'un des secrets de Paul, c'est ça. Paul, c'était un homme plein de compassion. Vous pouvez l'éventer, il a eu des miracles, mais c'est à cause de ça. On peut lire d'abord un peu là où il a manifesté une vie vraiment extraordinaire. C'est Acte 19. Acte 19 au verset 11. J'ai une nouvelle Bible. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Il y a eu des choses extraordinaires dans le ministère de Paul, par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies, les quittaient et les esprits malais sortaient. Voilà. Mais pourquoi ça? Grâce à quoi? C'est écrit là dans 2 Corinthiens 11. Voyez lui-même, c'est son témoignage. Hein? Au verset 2 Corinthiens 11. Non, oui, c'est ça. Au verset 28. Il dit ceci. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il ne se souciait pas du fait qu'il n'a pas l'argent. Il ne se souciait pas du fait qu'il n'a pas les papiers. Il ne se souciait pas du fait qu'il n'avait pas de boulot. Mais les soucis de l'Église. Est-ce que c'est ça mon souci? Est-ce que c'est ça ton souci? Quand tu vois par exemple que vraiment Dieu ne se manifeste pas tellement, est-ce que c'est mon souci? Est-ce que ça me prend tout le temps pour que je puisse aller prier Seigneur? Qu'est-ce qui fait que vraiment tu ne te manifestes pas tellement au milieu de nous, Seigneur? Tu peux nous le dire. Oh, c'était ça le souci de Paul. Oh, pourquoi? Vraiment, nous devons tout le temps tomber des péchés qui nous enveloppent très facilement. Seigneur, aide-nous. C'était ça le souci. Alors, que me donnent toutes les églises? Alors, il a dit ceci. Qui est faible? Que je ne sois faible. Quand quelqu'un est faible là, malade par exemple, c'était aussi la maladie de Paul. Qui vient tomber? Que je ne brûle. Quelqu'un vient de tomber dans le péché, il ne va pas dire, oh, c'est son problème, hein? ce sont des hypocrites, des corbeaux. Non, ça, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Paul, il brûle, il va aller voir ce frère ou cette sœur-là. Oh, frère, qu'est-ce qui a fait que tu puisses faire ça? Je viens pour t'aider, je viens prier pour toi. C'était ça, Paul. Et c'est grâce à ça qu'il y a eu tout ça, des grands miracles. Alléluia. Et frère Branham, c'est la même chose, lui-même à part. Hein? Frère Branham, un défilé du surnaturel terrible. Il y a eu, si vous lisez, je ne sais pas si vous avez déjà lu, quand nous on croyait là, on a relu peut-être la biographie, des choses extraordinaires qui se sont passés dans ces ministres. Au point, on pouvait se demander, mais est-ce que c'était un extraterrestre, ce monsieur? Mais vous allez suivre ce qu'il a dit. Il a, dans la brochure, écoutez-le. Ça a été prêché le 24 avril 1959. Il dit ceci, hein. Maintenant, suivez. Je voudrais vous livrer un secret de la prière pour les malades. Dieu a plusieurs fois exaucé ma prière. Et l'unique moyen par lequel cela peut se faire, c'est de sympathiser absolument avec la personne qui souffre. Vous devez réellement ressentir cela. Je souligne ici, réellement. Ça ne doit pas être du fabriqué. Ça ne doit pas être quelque chose d'imaginaire. Tu es en train de prier, « Ah Seigneur, guéris telle sœur, guéris tel frère. » Mais quand tu es en train de prier, tu es en train de passer à la machine à laver. Tu es en train de passer, je ne sais pas, à ton WhatsApp là-bas, hein, à ton téléphone. Mais cela veut dire que ce n'est pas le frère là qui est dans ton cœur. C'est ton téléphone qui est là-dedans. Donc ce n'est pas réel, c'est imaginaire à ce moment-là. Ce n'est donc pas du fabriqué. Alors, il continue dans une autre brochure. Il dit, Dieu projeta son amour. Prêché le 6 août 1957. Paragraphe 26. Il dit, si jamais j'ai eu du succès à prier pour quelqu'un, c'est quand j'ai pu entrer en communion avec lui, sentir ses infirmités, sentir sa condition. Voilà. Est-ce que ça m'arrive vraiment quand je prie pour mon frère? Est-ce que je peux entrer dans sa souffrance? Je peux souffrir comme il souffre? C'est un miracle qui se produit. Ça ne se fabrique pas. Alors, donc, il continue maintenant. Parce que c'était mon petit commentaire. Alors, quelque chose va au-delà du raisonnement. Il y a quelque chose qui t'arrive. Cette compassion-là, c'est quelque chose qui t'arrive. Quand tu es en train de prier, si vraiment tu es en train dans cette atmosphère véritable de prière. Donc, alors, quelque chose va au-delà du raisonnement et offre une prière de la foi. C'est ça. Nous avons difficile à définir la foi, mais c'est des choses comme ça qu'on appelle la foi. Quelque chose qui vous arrive et qui vous pousse à entrer dans la souffrance de l'autre. c'est la foi qui est là à ce moment. Donc, c'est la prière de la foi pour les malades. Donc, c'est ça. La foi, c'est donc pas quelque chose d'imaginaire. C'est quelque chose, c'est une expérience. Voilà. Alléluia. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes, de manque de foi, et qui sont à la base de nos échecs. Des échecs dans les églises, des échecs dans ce monde, beaucoup de problèmes. Comme dit tant du Seigneur Jésus-Christ, tout cela qui était censé justement combattre avec les malades, il les abandonnait, c'était des chefs religieux. Vous voyez, nous nous souvenons par exemple problème qu'ils avaient tout le temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, il est là. Et il se fait entourer, par exemple, des gens de mauvaise vie. Mais les chefs religieux commencent à les critiquer. Et, ah, comment il peut s'entourer des gens de mauvaise vie? Mais alors pourquoi? La question, on peut leur poser. Mais pourquoi alors vous êtes des serviteurs de Dieu? Pourquoi vous êtes des pasteurs et des prédicateurs? C'est pour servir qui? Hein? Dieu, il est tout suffisant. En principe, Dieu n'a pas besoin d'être servi. Si vous êtes serviteur de Dieu, cela signifie tout simplement que vous êtes serviteur des affaires de Dieu. C'est tout simplement ça. Parce qu'il est tout suffisant. Il vit par lui-même. Il peut tout faire lui seul. Seulement, il a ses affaires. Alors, il a mis ses affaires à votre disposition. C'est ainsi que vous êtes des serviteurs de Dieu. Il commence à critiquer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a guéri quelqu'un pendant le sabbat. Waouh! Donc, ils s'indignent même, ils sont mécontents. Oh, mais guérir quelqu'un, c'est quand même bien, même si c'est pendant le sabbat. Même toi-même, souverain sacrificateur, tu souffres du sida. Il y a quelqu'un qui t'a guéri les jours du sabbat. Tu ne seras pas content. Donc, c'était juste des hypocrites. Voilà, tout simplement, cela signifie qu'ils n'étaient pas dans le même corps que les malades là. Comment quelqu'un à qui on a rendu un beau service comme ça, toi, au lieu d'être content, alors que tu es serviteur de Dieu, tu es mécontent. Cela veut dire que tu n'es vraiment pas dans le corps de Christ. Le corps de Christ ne se comporte pas comme ça. Le corps de Christ, quand un frère est guéri, ce sont des amens, des alléluia. Et nous tous, nous remercions le Seigneur. Nous lui rendons des actions de grâce. Puisque la joie de mon frère, c'est ma joie. Amen. Alléluia, alléluia. Voilà. Oui, donc au temps de Jésus-Christ, c'était comme ça. Maintenant, même dans ce temps ici, donc le temps moderne, un grand problème, manque de compassion, surtout ici en Occident. L'Occident est en train d'être détruit à cause de ça. Ce ne sont pas les biftecs qui sont leur bénédiction. Ce manque de compassion. Vous voyez par un exemple, ils sont obligés d'organiser des fêtes de voisins. Juste pour leur dire, mais leur apprendre qu'il faut dire bonjour à ton voisin. On doit apprendre ça à des adultes. Hein? Ça, c'est quand même l'expression, le dit tout le temps. C'est simple comme bonjour. Mais ce sont les adultes à qui on doit apprendre des choses comme ça. C'est quelle dégradation de la société. Hein? Donc, on doit leur apprendre. Mais il faut quand même saluer votre voisin. Mais tu ne connais même pas ton voisin. Quelle civilisation. Moi, je n'aimerais pas d'une telle civilisation. Ma civilisation, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez que la simple salutation, là, c'est la parole de Dieu. Il y a Romains 16, 3, 16, là. J'ai compté ça. Je n'ai pas tout le temps de lire. Donc, Frère Paul n'a fait que saluer, saluer, saluer. C'était peut-être ça la prédication. Il a salué, il a salué. Donc j'ai compté, il y a 14 salutations. Je salue tel frère, je salue telle sœur. Mais ça, c'est des choses que les gens ont négligées dans cette soi-disant civilisation occidentale, puisqu'ils ont eu des milliers d'euros, des milliers de dollars. Et ça a créé de l'indifférence. C'est ça qui est à la base, justement, du manque de compassion, puisqu'on est devenu très indifférent. On ne fait aucun cas des autres. Comme celui-là qui était allé prier, les pharisiens, ils ne faisaient aucun cas des autres. Indifférent. Comme conséquence, cela a détruit l'effet de la prière. Il n'a pas été exaucé. Parce que si vous venez avec ça dans la prière, c'est un fiasco. Je vous garantis un échec. Dieu ne peut pas exaucer une telle prière. Alléluia. Voilà. Frère Branham parle de cette situation. Bientôt. 19h bientôt. Et 20h. Bon, il parle de cette situation dans la brochure. Crois-tu cela? Prêcher les trois... Le 3 octobre 1951, paragraphe 33. Savez-vous, il dit ceci donc, savez-vous les problèmes déjà aujourd'hui, donc un grand problème. Nous sommes éloignés de la compassion. Nous n'avons pas de la sympathie les uns pour les autres. Eh bien, autrefois, quand j'étais enfant, si un voisin tombé malade, nous allions là lui couper du bois. Il aidait à remplir les silos. Couper son maïs. Et maman allait laver les affaires et apprêter les petits déjeuners pour eux. Mais aujourd'hui, vous ne savez même pas que votre voisin est mort, à moins de les lire dans un journal. C'est malheureux. Hein? Ce n'est pas une vie. Oh, la Bible dit, c'est parce que l'unité... Bon, il continue à prêcher ça. C'est, la Bible dit que c'est parce que l'iniquité s'est accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et malheureusement, même dans le monde des gens qui prétendent avoir cru le message, c'est la même chose. Voyez ici, cette compassion, ce n'est pas seulement vis-à-vis des maladies physiques. D'ailleurs, Dieu insiste même plus pour la compassion vis-à-vis des maladies spirituelles, les péchés, les âmes perdues. Est-ce que nous avons cette compassion? Mais dans le milieu du message, vous allez voir des doctrines déjà qui disent que les autres sont des corbeaux. Il ne faut pas participer à l'enlèvement. Oh, ils sont perdus. Et vous allez suivre déjà dans l'église des suiveurs, des membres d'église qui disent « Amen, Amen ah ». Vous dites « Amen » pour le malheur de quelqu'un. Quelqu'un qui va rater l'enlèvement et ça vous réjouit. C'est tout malheureux. Mais justement, à cause de ça, c'est juste les doctrines, mais on ne voit pas tellement ce qui s'est manifesté dans le ministère de notre bien-aimé frère Branham. Ce n'est pas ça l'esprit de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que ce que le frère Branham appelle le troisième pôle ne doit pas être donné à n'importe qui. Si on l'a vraiment, on va envoyer tout le monde en affaire ou on va tuer les gens. Parce qu'on n'a pas cet amour véritable pour les âmes perdues. Mais quand votre frère est dans les péchés, de la même manière que vous avez pitié de quelqu'un qui a le sida ou la COVID, vous devez avoir pitié même plus. Parce que le péché, le salaire, c'est la mort. Séparation éternelle d'avec Dieu. Tandis que le sida, si c'est peut-être un frère qui a cru au Seigneur, mais il va vivre l'éternité. on doit vraiment être triste de quelqu'un qui est dans le péché. Et je vais terminer par ici. Eh bien, nous recherchons souvent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le secret du Saint-Esprit, c'est cette compassion pour les âmes perdues. Si vous l'avez, parce que cela est quand même dit dans la Bible, Ézéchiel 9, 4. Je pense que là, je vais m'arrêter parce qu'il est déjà 20 heures. On va passer dans une adoration et on termine par là pour laisser le temps aux gens qui vont très loin. Alors, Ézéchiel 10, Ézéchiel chapitre 9, verset 4. Il dit ceci. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. » Pourquoi ces gens soupirent et gémissent? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de papier? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils sont même malades physiquement? Non. Ils sont en train de soupirer, de gémir à cause de toutes les abominations qui se commettent dans la ville. Il y a des gens comme ça, très spirituels, à cause de toutes ces femmes qui se promènent nues dans la ville de Bruxelles. Il va aller gêner, prier, dit Seigneur Jésus, il y a sans doute de tes enfants qui traînent parmi ces gens. Oh Seigneur, touche leur cœur. Est-ce que cela m'arrive comme ça? Et c'est à de telles personnes que Dieu a dit de mettre le Saint-Esprit. Donc, il lui dit, passe au milieu des gens, il fait une marque sur le front. Ça, c'est le Saint-Esprit. Si nous voulons avoir le Saint-Esprit, que Dieu nous accorde cette compassion des âmes, cette compassion vis-à-vis des âmes perdues. Nous allons nous lever pour... On va terminer par là parce qu'il est déjà 20h05. Nous allons adorer, nous allons prier. Voilà. Les cantiques, on ne chante pas parce qu'on va gagner du temps. C'est juste les cantiques dans le chant de victoire 161, j'ai lu ça. Il dit, écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons ces brebis. Savons-nous le prix d'une âme? C'est parce que nous n'avons pas de révélation sur le prix d'une âme que nous négligeons les âmes. Nous, Dieu ne nous a pas envoyés ici en Europe ici pour manger des beefsteaks, c'est pour les âmes perdues. Puisque Dieu ne vous met pas quelque part pour les hasards. Et cherchons-le, savez-nous le prix d'une âme. Cherchons-le, les beaux bergers les réclament. Ils sont en train de mourir de froid, de soif, de faim de la parole. Toi, tu as la parole de l'heure. Une parole extraordinaire que nous avons reçue dans cet âge. Mais tu es avec un ami, peut-être un disciple de l'université, mais tu as honte de lui parler de Jésus-Christ. Parce que tu penses qu'il va passer que mais ça, ces pauvres Africains, tout cela, ils pensent que Dieu existe parce qu'ils sont pauvres. Non, ce n'est pas à cause de ça. Nous, on a cru parce que Dieu nous a visités. Hein? Nous avons une expérience personnelle avec notre Dieu. Il est réellement vivant. Amen. Alléluia. Mourra de froid, de soif, de faim. Le brebis appelle à vin. Jésus nous veut pour les sauver. Qui va l'aider à les trouver? Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Que Dieu nous donne vraiment cette faim et cette soif. Je vous demande de prier. Moi, je vais marmonner un peu. Je vais chanter à douceur un petit couplet. Priez le Seigneur vis-à-vis de ce que, de la manière dont Dieu vous a parlé au travers de cette petite prédication. Les bergers tendraient d'appeler. Est-ce que vous écoutez l'appel du beau berger? Pour les âmes perdues qui sont dans nos familles, est-ce que vous avez déjà parlé de Jésus-Christ à tous ces frères dans la chair, à toutes ces sœurs dans la chair? Vous risquez ou je risque d'être jugé pour non-assistance à la personne en danger. L'État presse. Nous devons travailler alors qu'il fait encore jour. Alléluia. Amen, amen. On va terminer. Je vais prier pour ceux-là qui ont un problème particulier. Ils peuvent lever la main et je prie pour eux. Dieu notre Père, oh, ton appel est en train de retentir, Seigneur. Tu as sondé nos cœurs ainsi que nos reins. Et tu as tout simplement trouvé que nous n'avons pas tellement de compassion pour les âmes perdues. Oui, si nous en avions, il y en aurait plein ici, des blancs. Mais nous n'en avons pas tellement. Nous te demandons de nous les pardonner, Seigneur. Merci, Père, de nous avoir parlé de cette manière. Tu sais pourquoi tu nous as parlé ainsi. Maintenant, Seigneur, il y a des mains qui sont levées. Seigneur, je lève moi-même mes mains vers toi. Puisque moi-même, j'ai des préoccupations. Moi-même, j'ai des problèmes. Je te demande de m'aider, d'aider mon frère et ma soeur, Seigneur. Quel que soit le problème qu'il a, je sais que toi, tu es la solution. Quelle que soit la maladie, oh, dont il peut souffrir, dont elle peut souffrir, je sais une chose, que tu es l'éternel notre Dieu, qui nous guérit de toutes nos maladies. Si c'était problème socio-économique, nous venons de les voir, Seigneur, que même ces problèmes te préoccupent. Si c'était problème de papier, Seigneur, étends ta main et accorde ces papiers. Je me souviens du fait que, oh Dieu, tu es celui qui me les a accordés. Tu es le même Dieu. Oh Dieu à qui je m'adresse à cet instant. Sachant que tu es le Dieu des miracles, le Dieu des signes et des prodiges. Merci Seigneur. Bénis tes fils et tes filles qui viennent de passer ce petit moment dans ta présence. Maintenant, alors qu'ils vont retourner chacun à son domicile, Seigneur, retourne avec eux. Que la joie que tu donnes et que le monde ne peut jamais nous donner puisse nous accompagner partout, jusque dans nos maisons, jusque dans nos lieux de service, Seigneur. Souviens-toi de ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Oh Seigneur, s'ils ont été empêchés par une maladie ou un problème, quel qu'il soit, Seigneur, que la prière que je t'adresse à cet instant, oh Dieu, puisse les toucher, quel que soit l'endroit où ils sont, afin que leurs problèmes puissent être résolus. Si c'est par manque de compassion, si c'est par manque de zèle qu'ils ne se sont pas retrouvés ici, Seigneur, aie pitié d'eux. Et étends ta main afin que, Père, prochainement, ils puissent avoir ce zèle pour les choses du royaume. Merci, Seigneur. Je crois que tu nous as écoutés. Et c'est au nom de Jésus que j'ai élevé ici ma voix vers toi. Amen. Dieu soit loué. Que le Seigneur vous bénisse. Allez avec notre Seigneur Jésus-Christ partout où vous allez vous retrouver. Merci.